Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Écoutez des formules chuchotées à l'oreille, tourner autour d'un graphique en trois dimensions, jouer avec des modélisations numériques, c'est ce que propose le tout nouveau musée des mathématiques de l'Institut Henri Poincaré. Coloré, accessible, concret, ce musée est le résultat de réflexions collégiales entre scientifiques et muséographes. Il veut relever le défi de rendre les maths accessibles à tous et toutes. Maths-moi ce musée, au cœur de la maison Poincaré, en avant pour la visite guidée. Et avec nous dans cette émission, pour raconter les coulisses de ce musée des maths, nous avons le plaisir de recevoir Sylvie Benzoni-Gavage, mathématicienne, directrice de l'Institut Henri Poincaré et professeure de mathématiques à l'Université Claude Bernard de Lyon 1. Nous discuterons ensemble des défis qu'a représenté ce projet, initié il y a plus de 10 ans par le mathématicien Cédric Villani, alors directeur de l'IHP. Nous partirons ensuite visiter l'exposition permanente de la maison Poincaré et Sylvie Benzoni-Gavage nous livrera à cette occasion quelques anecdotes derrière trois lieux du musée. Nous rencontrerons également les visiteurs qui découvrent le musée à l'occasion des vacances de la Toussaint. Dans cette émission, nous entendrons aussi Lénaïque Corderoc, bénévole au Labo des Savoirs pour sa toute première chronique. Lénaïque, tu es avec nous en plateau et tu vas nous parler des filles en sciences, c'est bien ça ?
Oui, exactement. On va essayer de décortiquer le cliché que les filles sont moins bonnes en mathématiques que les garçons.
Hâte d'écouter tout ça. En attendant, en avant pour l'interview.
La science dans tous ses états. Au Labo des Savoirs.
Nous sommes avec Sylvie Benzoni-Gavage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicienne, directrice de l'Institut Henri Poincaré et professeure de mathématiques à l'Université Claude Bernard de Lyon. Vous êtes ici, donc là on est au cœur de l'Institut Henri Poincaré qui est juste en face de la maison Poincaré que l'on va visiter juste après. Pour commencer cette interview, j'ai une petite question qui me taraude. Est-ce qu'il y a un cliché sur les mathématiques qui vous énerve, que vous ne pouvez plus voir ?
Alors, il y a le fait que les gens s'imaginent toujours que pour faire des mathématiques, il faut être un monsieur d'un certain âge avec une blouse blanche. Et bah, évidemment, il y en a, mais il n'y a pas que ça.
Voilà, un cliché auquel je pense quand on me dit mathématiques, c'est un grand tableau noir, plein d'écritures de formules très compliquées, des choses illisibles pour le commun des mortels. Là, je suis allée dans la maison de Poincaré, c'était pas ça du tout. Est-ce que, avec ce petit musée, vous avez voulu démolir aussi ce cliché-là ?
Alors en tout cas, on a voulu montrer des maths vivantes et permettre aux gens de mettre les mains dedans et que ça les rende palpables, accessibles. Effectivement, sur les tableaux, il y a des choses qui sont incompréhensibles, mais qui le sont souvent aussi pour les mathématiciens, mathématiciennes professionnelles. Et c'est tout l'enjeu du tableau noir, c'est de se raconter des choses les uns et les unes aux autres.
Je suis sûre qu'après la visite de la maison Poincaré, pour les curieux qui y iront, vous comprendrez peut-être plus ces fameux tableaux noirs. Mais avant, une petite remise dans le contexte, nous sommes donc au campus Pierre et Marie Curie, dans le 5e arrondissement de Paris. Tout ici transpire la science. Il y a l'Institut Curie, il y a l'Institut d'Océanographie, de Physique, Chimie, de Géographie, de Biologie. C'est un lieu qui est vraiment dédié à la recherche, mais aussi à la médiation scientifique, puisqu'il y a deux musées. Le musée Curie et maintenant le musée des mathématiques avec cette maison Poincaré. Pourquoi un musée des mathématiques, Sylvie Benzoni-Gavage, et pourquoi ici ?
Alors, c'est un projet qui a été initié avant que je prenne la direction de l'Institut, donc par Cédric Villani, qui a réussi à convaincre un certain nombre d'acteurs publics et aussi privés d'aller dans ce sens, c'est-à-dire de vraiment Permettre à l'Institut de s'étendre dans ce bâtiment qui héberge la Maison Poincaré et d'avoir à l'intérieur de ce bâtiment un musée qui serait accessible et qui permettrait de faire se rencontrer les scientifiques qui fréquentent l'Institut pour leur recherche et le public, le grand public et les scolaires.
Donc apparemment un lieu de rencontre dédié aux mathématiques et seulement à cette matière-là ?
Alors les mathématiques, disons au sens large, en interaction avec les autres sciences et avec les applications technologiques et la société plus généralement.
Donc c'est un projet, vous l'avez dit, hein, qui a été initié par Cédric Villani il y a 10 ans. Vous l'avez repris en arrivant à la direction de l'IHP, hein, l'Institut Henri Poincaré, en 2018. Comment on fait pour réussir à reprendre un projet de cette ampleur et pour se l'approprier ?
Alors c'était un défi, hein, ça me paraissait même un peu vertigineux au début. Je l'ai pris dans un état où il y avait un projet déjà architectural, il y avait un architecte, Atelier Novembre, qui avait été choisi, avec des scénographes, Rémi Dumas, et une idée de comment les espaces de ce bâtiment pourraient être aménagés en musée, donc avec plusieurs espaces, certains patrimoniaux avec leurs boiseries, d'autres aménagés de façon moderne. J'ai trouvé le projet comme ça, et c'était une sorte d'écrin en devenir, et il fallait garder cet écrin.
Le remplir.
Voilà.
Parce qu'on parle là du bâtiment Perrin, qui est donc un bâtiment historique, et d'ailleurs, quand on fait la visite, on va pas tout dire, mais on retrouve cette histoire dans le bâtiment, mais il y a aussi des parties très récentes, ça sent encore la peinture fraîche. Comment vous avez fait pour choisir ? Est-ce que vous avez eu d'ailleurs une décision à prendre sur les endroits un peu modernes et les endroits historiques qu'on conservait ?
Alors, ce qui a été choisi dès le départ et donc dans le projet avant même que j'arrive, c'était d'occuper le rez-de-chaussée intégralement pour le musée et puis une partie du sous-sol pour faire un espace d'exposition temporaire. Et on a décidé en cours de route, là j'étais déjà là, de réserver une partie du sous-sol à une salle d'atelier aussi pour les classes.
L'atelier dont on va reparler d'ailleurs dans la deuxième partie de cette interview. Ce musée, il a été inauguré le 30 septembre 2023, donc il n'y a même pas un mois à l'heure où nous enregistrons cette interview. Est-ce que vous y êtes allé, vous ? Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes rentré dans ce musée, ça y est, qui est fait et qui est ouvert au public ?
Alors, j'ai pas eu d'impression de rentrer dedans, parce que je l'ai vu éclore, en fait, ce musée. Et il y a eu deux temps forts. Il y a eu l'inauguration elle-même officielle avec la ministre et un certain nombre de personnalités qui était le 27 septembre. Donc, bien entendu, j'étais là, on a fait des discours. Et puis ensuite, il y a eu l'ouverture au public le 30. Et j'étais là également, bien sûr, à l'entrée, même pour voir les premières personnes qui étaient prêtes un samedi matin à 10h à venir visiter le musée en question. Donc il y avait une part très émouvante dans tous ces événements.
Oui. Et j'imagine ce fameux public qui doit traverser un campus pour venir, enfin traverser, c'est vraiment juste à l'entrée. J'ai déjà eu la chance de visiter moi cette maison Poincaré il y a quelques jours et j'ai remarqué pour l'instant beaucoup d'étudiants. Le contexte faisait que je l'ai visité un vendredi après-midi, donc j'imagine que ça facilitait pour les étudiants de venir. Mais ce musée s'adresse à tout le monde, c'est ça, le public visé, c'est tout le monde.
C'est tout le monde, alors pas les petits-enfants a priori, même si le samedi matin sont proposés des ateliers pour les familles avec des enfants à partir de 7 ans, mais on n'a pas prévu d'accueillir des tout-petits, si ce n'est sous la surveillance de leurs parents, on ne les interdit pas bien entendu, mais c'est pas fait pour eux, voilà, c'est à partir de 7 ans.
Donc à partir de 7 ans, des enfants, des ados, des adultes, des très adultes, tout le monde peut comprendre cette expo, il n'y a pas de limite de connaissances particulières à avoir de préalable, peut-être une culture scientifique ou n'importe qui peut venir.
Alors, on l'a pensé pour que ça permette à tout le monde d'y trouver quelque chose. Les premiers retours qu'on a, c'est que parfois certaines personnes sont un peu déroutées. J'ai pu passer un petit peu de temps à l'entrée, à voir des gens qui disaient « Ah, mais j'ai rien compris ». J'ai dit « Non, mais attendez, qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? On va retourner voir ». Et voilà, ça fait partie des mathématiques, il y a une sorte de ticket d'entrée. Il faut faire un petit effort quand même pour rentrer dedans. Mais on a mis vraiment plein de portes d'entrée et je reste convaincue qu'il y a matière à trouver pour tout le monde, en fait.
Alors, moi, j'ai pas de trop de tickets d'entrée, mais je vais partager mon expérience. Quand on arrive, on découvre cette grande carte des mathématiques. En tout cas, moi, c'est la première chose que j'ai vue, qui prend tout un mur et qui est dans un espace, on reparlera de ces fameux espaces qui s'appellent connectés, et une grande carte, très colorée, très belle. D'ailleurs, l'exposition permanente, je trouve, est très belle. Et ça donne envie de s'y plonger et de voir un petit peu les liens entre les différents domaines des mathématiques, puisque dans cette carte, Alors, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas beaucoup de lettres grecques. Il y a au contraire, je crois qu'il y a un ballon de foot qui flotte, une espèce de valise, il y a des objets du quotidien autour avec cette carte au milieu. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette carte et pourquoi l'avoir faite ?
Alors effectivement, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres. Ça, c'était un des points. On voulait contrecarrer les idées reçues, disons, sur les maths. On voit souvent, même dans la presse, c'est la science des chiffres. Non, c'est pas la science des chiffres. Ok, il y a les chiffres, il y a les nombres, c'est une partie des maths. La théorie des nombres apparaît sur cette carte, mais c'est une partie des mathématiques et c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc on voulait essayer de donner comme ça, visuellement, un aperçu de la variété et de l'ampleur des mathématiques qui sont beaucoup plus vastes que ce que les gens retiennent en général de leur apprentissage à l'école. À l'école, on rencontre effectivement les nombres, la géométrie, quelques autres parties, maintenant aussi un peu de probabilité, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on apprend à l'école. Donc c'était l'idée. Et elle est effectivement très belle, cette carte. C'est vraiment un travail des scénographes avec les graphistes aussi. On leur a fourni un matériau qui était en gros une diapo PowerPoint. Ils s'en ont fait quelque chose de très très beau. Et elle est entourée d'objets du quotidien. Puisque l'idée, c'est littéralement cette carte, les lignes de métro sur cette carte sont faites en élastique. Donc c'est pour imaginer qu'on tire des fils vers les objets du quotidien qui permettent à tout un chacun, toute une chacune, de se dire, ah oui, il y a cet objet autour, mais pourquoi ? Et est-ce que ça a un rapport avec les maths ? Donc bien entendu, on peut lire des choses, il y a des fiches, il y a des cartels. Si on suit une visite guidée, c'est encore plus intéressant parce que les animateurs ou animatrices vont raconter des histoires autour de tout ça.
Et c'est vrai qu'on voit, vous avez parlé tout à l'heure des différents thèmes des mathématiques qu'on peut trouver dans nos scolarités, mais certains aussi qu'on n'aborde jamais. On voit tous ces thèmes qui se mélangent. Alors je vais avoir du mal à les citer de tête, mais il y a de la statistique, il y a de la probabilité, il y a de l'arithmétique, il y a de la modélisation, ça va aussi un peu vers du numérique parfois. Et on se rend compte que les maths, c'est une discipline qui est en interaction avec toutes les autres disciplines scientifiques. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté de montrer l'interdisciplinarité qui existe dans le monde des mathématiques ?
Oui, c'est effectivement l'une des particularités, c'est que c'est un langage, les mathématiques, qui est utilisé dans effectivement pratiquement toutes les autres sciences. Et forcément, c'est une discipline qui interagit avec les sciences et dont les autres sciences ont besoin pour obtenir des résultats surtout quantitatifs. Enfin, on peut obtenir des résultats qualitatifs, mais si on veut aller plus loin, on appelle par exemple la biologie quantitative, des choses comme ça.
D'ailleurs, on est dans ce campus avec d'autres matières scientifiques, on l'a dit au début, hein, qui sont autour. Donc j'ai l'impression aussi que ça permet à ces matières scientifiques, il y a de l'océanographie, de la géographie, etc., de se rattacher, enfin d'avoir aussi un peu leur place dans ce musée. Alors juste devant cette grande carte des mathématiques, il y a un ballon, enfin une sphère métallique, avec des petits bouts de cuir métallique que l'on peut disposer dessus pour en faire un ballon de foot, ou un ballon avec une forme un peu plus particulière que je ne saurais pas décrire. Et alors je me suis un peu amusée, hein, à essayer de refaire ce ballon de foot, à aimanter toutes les petites parties de cuir dessus, et puis j'ai vu des enfants, beaucoup, s'amuser aussi à faire ça. C'est quoi ce petit ballon ?
Il y a beaucoup de succès en effet, c'est une idée qui est venu des groupes de travail. Enfin voilà, on a quand même conçu ce parcours muséographique avec la muséographe et vraiment beaucoup de gens, des dizaines de personnes. Et ça faisait partie des idées dont on était à peu près sûr que ça allait bien marcher. C'est-à-dire, la plupart des gens connaissent, ont déjà vu un ballon de foot, mais la plupart des gens n'ont jamais fait attention à comment il était fait. Et ça permet de raconter pas mal de choses, finalement, sur le fait qu'on ne peut pas habiller une sphère avec des morceaux plats sans plisser ou déchirer. Et donc, cette sphère aimantée permet effectivement avec les mains, de tester l'habillage. Donc, si on essaye avec seulement des hexagones, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Et donc, il faut aller chercher des pièces qui sont des pentagones. Et les autres pièces que vous mentionniez, c'est les pièces du ballon de la Coupe du Monde de foot 2014 au Brésil. Et il se trouve que c'est 6 pièces identiques. Ça revient finalement à fabriquer une sphère avec 6 pièces identiques comme on pourrait fabriquer un cube. Il y avait une collègue, Étienne Gis, qui avait dit que, voilà, de façon un petit peu provocante, que ceci est un cube, en fait, parce qu'il y a 6 pièces identiques.
Ce qui est génial, parce que ces 6 pièces sont un peu tentaculaires, je ne sais pas trop comment les décrire, on dirait un peu des étoiles à 3 branches, je crois, sur une sphère. Donc effectivement, je comprends la provoque de dire que c'est un cube. Pourquoi c'était important de faire un musée où on peut manipuler les mathématiques ? Parce qu'il n'y a pas que ce ballon, il y a d'autres activités, des cubes, des projections, des cordes qu'on fait vibrer. On manipule les maths en permanence et j'ai l'impression que tout peut se toucher. Pourquoi ?
Effectivement, c'était quelque chose qui nous a semblé important dès le départ. Et c'est une façon d'approcher les maths qui est assez différente de ce qu'on peut voir à l'école aussi, même si dans les classes et aussi dans les clubs, enfin, il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui font du travail de cette nature-là, hein, qui font manipuler, mais c'est vrai que c'est une approche vraiment sensorielle de pouvoir toucher des pièces et de se dire, bah, si je réfléchis un petit peu, je vais pouvoir les assembler. Il y a aussi un jeu d'optimisation, il faut rentrer des cubes dans une valise et on a l'impression que ça rentre pas. Donc, ça donne un petit côté aussi ludique. Et le fait de commencer avec les mains, ça peut aussi désinhiber les personnes qui disent « Ouh là là, c'est compliqué, ça va me faire fumer le cerveau. Non, bah, je vais d'abord essayer avec les mains et on va voir ce que ça donne. »
Oui, c'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée parce que j'ai l'impression que d'abord, on va essayer de manipuler, de toucher, de faire l'exercice et après, on va lire le petit écriteau qui est à côté pour comprendre ce qu'on vient de faire.
C'est ça.
Tout à l'heure, vous avez dit que c'était un travail collectif. Il y a effectivement beaucoup de ces petits ateliers de manipulation qui ont été faits en collaboration avec les scientifiques. Alors, avant de parler de ces scientifiques-là, je voulais parler des 14 ambassadeurs et ambassadrices de la Maison Poincaré, dont vous faites partie d'ailleurs, 6 femmes et 8 hommes, qui sont là pour témoigner du lien entre le musée, le monde de la recherche et la société. Ces femmes et ces hommes, j'imagine, ils ont participé à la création du musée ?
Alors, pas à 100%. On a essayé de constituer un pool d'ambassadeurs et d'ambassadrices, déjà, parce qu'on se préparait effectivement à une inauguration où on allait être très sollicité, on l'espérait en tout cas par la presse et les médias, et on ne pouvait pas être juste une ou deux personnes à porter les messages, donc on voulait plusieurs personnes à même de porter ces messages. Donc il y a parmi eux, effectivement, les ambassadeurs notamment, il y en a plusieurs qui sont des chercheurs ayant directement contribué à des manips, qui ont même coder voilà ce qui est derrière les manips. Il y a Cédric Villani qui était l'initiateur du projet. Vous avez sinon deux personnes, donc d'une part Hugo Dumille-Copin et puis Susanna Timmerman qui font partie des portraits dans l'un des espaces, des films courts sur le vécu, les sensations d'invention. Voilà, donc il y a Clotilde Fermagnan qui, disons, avec qui c'est un peu ma complice depuis le début, elle a assuré le commissariat scientifique avec moi, ainsi que Antoine Chamberlois, avec qui par exemple on a fait la carte de métro mathématique. Voilà, donc il y a des personnes qui ont directement contribué, et puis il y a aussi Nathalie Haï, qui est une collègue de Sorbonne Université, très investie dans la diffusion des maths, notamment parce qu'elle a lancé un podcast Tête à Tête Chercheuse, et enthousiaste par rapport au projet. Mathilde Herblot, qui est aussi une proche collègue, qui était dans le comité de culture mathématique, vraiment en amont du projet, et qui a suivi ça depuis le début. Donc voilà, c'est une variété de personnalités pour porter le message de cette maison.
Et puis j'ai l'impression qu'ils ont tous ce lien entre les sciences et la société, un moyen, vous parlez de podcast notamment, un moyen de transmettre aussi leurs connaissances au grand public.
Oui, c'est ça. Enfin, je pense que 100% des ambassadeurs, ambassadrices ont la volonté de partager leur enthousiasme et de transmettre les mathématiques telles qu'ils ou elles les aiment.
Et vous parliez aussi de ces chercheurs qui ont participé à coder les manips. Donc effectivement, il y a des expériences qui ont été pensées par les scientifiques de l'IHP. Comment on fait quand on est un chercheur ? Enfin, est-ce que cet exercice n'est pas compliqué pour réussir à dézoomer sur les recherches qu'on est en train de faire depuis des années, on a le nez dedans, et de se dire comment je rends accessible ça au grand public ? Est-ce que l'exercice était facile ? Est-ce qu'il a fallu beaucoup de réflexion ? Comment ça s'est passé ?
Alors, je peux pas tout à fait répondre à leur place. Alors, c'est pas exactement des chercheurs de l'IHP, puisqu'en fait, il y a pas de chercheurs à demeure à l'IHP. Hein. C'est des visiteurs, visiteuses au niveau scientifique. Là, on est plutôt allé chercher. On avait ce comité de culture mathématique où il y avait déjà pas mal de monde, et on est allé chercher un certain nombre d'autres collègues dont on pensait qu'effectivement, ils ou elles pouvaient apporter quelque chose, avec une idée assez précise déjà, c'est-à-dire c'est pas parti du ou de la collègue qui disait ben moi mes recherches s'apportent sur ça et je voudrais faire ça dans le musée. C'est il y a eu ces groupes de travail par espace qui ont fait émerger des idées de manip, et ensuite on s'est dit effectivement qui est mieux à même de d'alimenter, de nourrir cette manip.
Justement, vous parlez des espaces, puisque ce musée est un musée avec plusieurs grands espaces délimités, pas tant d'ailleurs, on peut naviguer assez facilement entre tous ces espaces. Donc je vais en citer quelques-uns, il y a connecter, modéliser, visualiser, partager, inventer, devenir. Et chaque espace a cette espèce de thématique, hein, représentée par ce mot, un infinitif, qui est assez génial. Comment on arrive à choisir ces différents espaces pour créer ce musée?
Quand j'ai repris le projet, il y avait des thématiques esquissées par dans chacun de ces espaces, mais il n'y avait pas encore les verbes. Ce qu'on a fait dès 2018, c'est réunir ce comité de culture de mathématiques élargi et commencer à faire des groupes de travail par espace. Et ensuite, il se trouve qu'il y a eu une sorte de concours de circonstances, alignement de planètes, je sais pas. Céline Nadal, qui est physicienne de formation, est devenue elle est physicienne de formation et muséographe. Elle est rentrée en contact avec nous. Elle a vraiment rejoint très rapidement l'entreprise, quoi. Et c'est elle qui ensuite s'est approprié les premières pistes qu'il y avait. C'est elle qui a fait le programme avec ses verbes. Enfin, les verbes, elle n'a pas décidé toute seule les verbes. On a décidé collectivement. Il y a même certains groupes de travail qui ont eu un petit peu de mal à faire converger le verbe. On hésitait entre tel ou tel verbe pendant un petit moment. Et c'est donc elle qui, dans l'année qui a suivi, affiné avec les groupes de travail un programme et avec des idées de contenu déjà beaucoup plus précises pour chacun des espaces.
Dans l'espace devenir, par exemple, on voit plusieurs portraits de mathématiciens et mathématiciennes qui sont mis en valeur devant un miroir. Alors j'ai trouvé l'idée du miroir très malin, peut-être que je dis des bêtises, mais je me suis dit que si j'avais 18 ans et que je venais visiter ce musée et que je lisais les portraits de ces mathématiciens et mathématiciennes et qu'après je voyais mon reflet, j'aurais eu 3 secondes peut-être que moi aussi je peux faire ça. C'était volontaire, j'imagine.
Je peux pas parler à la place du scénographe, parce que c'est vraiment cette mise en scène là avec le miroir, c'est l'idée de l'agence du MA. Et effectivement, maintenant que vous me dites ça et que j'ai vu aussi passer des photos de gens qui se prennent dans le musée, c'est assez frappant en effet de constater que les gens qui visitent font des photos, ils se retrouvent au milieu de cette galerie de portraits et pour pouvoir éventuellement s'identifier, je trouve ça effectivement très 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 intéressant.
Et ce qui est important aussi, c'est la fameuse parité qui est respectée, une parité qu'on retrouve partout dans la maison Poincaré, j'ai l'impression. Les femmes sont très représentées autant que les hommes et c'est génial. Enfin, d'un point de vue très personnel, je trouve ça absolument génial. Alors que la proportion de femmes au sein de la communauté mathématique universitaire est plutôt stable et elle est plutôt autour de 20%. Pourquoi, Sylvie Benzoni-Gavage, vous trouvez que c'est important et vous avez tenu à cette parité depuis votre arrivée à la tête de l'IHP?
Alors, j'ai pas été toute seule à porter ça. Et on a été plusieurs. Et il se trouve que l'équipe, quand même, qui a piloté le projet entre la muséographe Clotilde Fermagnan, il y avait la chef de projet à l'époque Marion Lievig, et puis plus récemment Élodie Christophe, qui est arrivée comme responsable de la Maison Poincaré. C'était une équipe assez féminine et assez militante, et je dirais de plus en plus militante au fil du temps. Parce qu'en fait, au début, dans les groupes de travail, forcément, il faut faire des choix sur les contenus qu'on va présenter, donc de qui on va parler. Alors, il faut pas oublier de parler de mathématiciennes, mais combien de mathématiciennes, quelle proportion, etc. Et à un moment, on a tranché, on s'est dit, mais en fait, on n'est pas en train de distribuer des médailles ou quoi que ce soit, on veut juste montrer une image équilibrée des maths, et on va montrer autant de femmes que d'hommes. Voilà. La moitié de la population.
On fait tout de suite une petite pause musicale en écoutant Fiebre de Feroz et on revient juste après.
Si la muerte le despierta a toda mi jungla vieta, si la mente se destierra, es para que pronto llueva. Y no le tengo miedo a la oscuridad, ni al metal ni al acero frío. Si te atreves a utilizar un malta, te rebote, estás sufrido. En el desorden puedo respirar. Caminos que cruzan, caminos que vuelven por mí. Ahora sé que soy feroz, que hay lejana hasta os. Ya no le tengo miedo al error y al lobo. Si no me crees, quédate y mira este mundo. Ahora sé que soy feroz, dentro de mí no hay nada. Si ahora te caes por tu terror y odio, no te quejes, intenté mostrarte el modo al lodo. Mm-hmm. Oh, 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 oh. le ves a la luna. Cuento mis lágrimas una por una. Sé que sin ellas no soy ninguna. Corro a película hasta la luna. A mi corazón bendigo el presente. Ven y tú prueba algo diferente. Mi conexión es un nirvana. Y hago con ella lo que me da ganas. Con lo que especio no puedo parar. Caminos que cruzan, caminos que vuelven por mí. Ahora sé que soy feliz. Que ya lejana hasta os. Ya no le tengo miedo al error y al lodo. Si no me crees, quédate y mira este modo. Ahora sé que soy feliz. Dentro de mí no hay nada. Si ahora te caes por tu terror y odio, no te quedes. Yo intenté, yo intenté. Nadando yo sola intenté buscarte. Llegando hasta el fondo ya lo que mirarte. Dímelo a la cara hasta que me ates hoy. En tu cama hoy, mañana de nadie. Dejando caer todo lo disfrace, todo lo disfrace. Ahora sé que soy feliz. Que ya lejana hasta os. Ya no le tengo miedo al error y al lodo. Si no me crees, quédate y mira este modo. Ahora sé que soy feliz. Dentro de mí no hay nada. Si ahora te caes por tu terror y odio, no te quejes, intenté.
De la recherche scientifique au Labo des Savoirs.
C'était Fiebre de l'artiste Feroz. Juste avant la pause musicale, nous avons parlé de parité et de mathématiciennes. Et il y a un stéréotype qui a la vie dure, celui que les filles seraient moins bonnes en mathématiques que les garçons. Disons-le tout de suite, c'est faux. Mais, tout au long de la scolarité, un fossé se creuse bien. Ainsi, les filles ne sont que 30% à présenter la spécialité maths au baccalauréat contre 54% des garçons. Mais d'où ça vient ? Lénaïque, tu es là pour décortiquer avec nous ce cliché.
Alors oui, est-ce que je suis la seule ici à qui on a rabâché depuis le début de ma scolarité que les filles étaient nulles en maths ou du moins qu'elles étaient moins bonnes que les garçons ? Personnellement, je l'ai entendu un million de fois et j'ai toujours pensé que c'était vrai. Sinon, pourquoi dans les écoles d'ingénieurs, les cursus en mathématiques ou même en physique, les hommes seraient-ils largement surreprésentés tandis que bizarrement, on les retrouve beaucoup moins en fac de lettres ou même d'histoire ? Alors le mystère reste entier. Le chromosome Y donnerait-il aux hommes le pouvoir extraordinaire qui lui permettrait de percer les secrets de la logique mathématique ? Spoiler alerte. Non, c'est pas le cas. Alors comme vous le savez, au Labo des Savoirs, on adore démonter les clichés et celui-là ne va pas y échapper. Selon une étude publiée en mai 2022 dans le journal britannique de psychologie du développement, dès le CP, on remarque dans la grande majorité des cas un écart de niveau qui se creuse en mathématiques entre les filles et les garçons. Mais en réalité, cet écart est un premier symptôme du conditionnement social des enfants sur les clichés de genre. C'est le résultat d'une expérience très connue réalisée par l'Université de Provence appelée « La menace du stéréotype ». Des écoliers et écolières devaient reproduire de mémoire une figure géométrique compliquée. Cette expérience a été réalisée sur deux groupes. Au premier groupe, les chercheurs ont dit qu'il s'agissait d'un exercice de géométrie, alors qu'au second, ils ont présenté le test comme un exercice de dessin. Dans le cas de la géométrie, les filles réussissent moins bien que les garçons. Mais lorsque l'on présente l'exercice comme une épreuve de dessin, les filles obtiennent de meilleurs résultats. Autrement dit, la seule évocation de la géométrie, propre au domaine des mathématiques, constitue un obstacle pour les filles.
Elle est dingue cette expérience, surtout que c'est la même et que ça change vraiment radicalement les résultats. Est-ce que ces stéréotypes ne sont présents qu'à l'école ?
Hélas non. D'après Manuela Spinelli, spécialiste des études de genre, les enfants grandissent dans un environnement stéréotypé dont ils font les frais. On offre plus facilement des jouets qui permettent de développer les compétences spatiales, logiques et la motricité aux garçons, comme les jeux de construction. Pour les filles, les jouets sont plutôt axés sur le langage et les compétences sociales, avec par exemple les poupées, les livres de contes. Ces stéréotypes sont des mécanismes ancrés et intériorisés par les adultes, aussi bien les parents que les professeurs. Ils peuvent alors inculquer ces clichés aux enfants sans même s'en apercevoir.
Est-ce que les performances mathématiques des élèves peuvent donc être influencées par leurs professeurs ?
C'est ce qu'a étudié la chercheuse Michela Carlana de l'Université d'Harvard. Quand les professeurs de mathématiques associaient implicitement les sciences aux hommes, les filles obtenaient de moins bons résultats dans cette matière que lorsqu'ils ne portaient pas d'intérêt à ces stéréotypes. Une autre étude a été menée par l'Université de Chicago en 2010. La progression des filles dont la maîtresse montrait de l'anxiété par rapport à l'enseignement des mathématiques serait moins bonne au cours de l'année que les autres. Via ces stéréotypes, les filles intègrent elles-mêmes l'idée qu'elles ne seraient pas douées en maths. C'est comme ça qu'elles perdent confiance en elles, dans ce domaine, ou s'y retrouvent pénalisées malgré elles. Alors pour confronter ce stéréotype, rien de tel que d'en avoir conscience et de faire attention aux idées qu'on renvoie aux petites filles comme aux petits garçons. Alors je ne veux plus jamais entendre que les filles ne sont pas faites pour les maths.
Merci Lénaïque pour cette super première chronique, bravo à toi. On retrouve tout de suite Sylvie Benzoni-Gavage, directrice de la Maison Poincaré, pour la suite de l'interview.
La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs.
On a parlé de parité, j'aimerais aussi parler d'accessibilité. C'est un lieu qui est neuf, qui est pensé j'ai l'impression qu'il a été pensé pour les personnes en fauteuil, notamment, pour les enfants, pour les personnes avec une déficience visuelle, pour les sourds et malentendants. On retrouve du braille, dans les vidéos on retrouve des personnes qui signent. Tous les panneaux sont en français mais aussi en anglais. Je crois qu'il y a d'autres langues.
Non, pour l'instant, on est à deux langues.
Ouais. Ah oui, c'est déjà français et anglais, ce qui est très bien. Cette accessibilité, elle était importante de pouvoir la mettre un peu partout.
Ah oui, ça a aussi été quelque chose de qu'on a poussé très très fort avec la muséographe. L'accessibilité aux personnes à mobilité réduite a été pensée dès le départ par les architectes et les scénographes. L'accessibilité pour les personnes déficientes visuelles, et c'était moins évident. Donc c'est arrivé finalement plus tard. Il y a toujours l'enjeu quand on prépare le graphisme, c'est qu'il n'y a jamais assez de place. Enfin, nous, en fournissant les contenus, on veut donner beaucoup de contenus. Les graphistes nous disent, mais il n'y a pas la place. Donc, par exemple, mettre de l'anglais, trouver de la place, c'était pas évident. Et il y avait cette histoire de braille sur laquelle on a beaucoup insisté et qu'on a pu faire grâce à des financements complémentaires et avec un atelier qui a été vraiment formidable pour faire ça, plus une personne qui est elle-même déficiente visuelle et qui nous a accompagnés pour le conseil, pour savoir quelle manip on pouvait effectivement essayer de rendre le plus accessible possible. Idéalement, on aimerait avoir toutes les manips qui soient accessibles, mais en fait, certaines s'y prêtent vraiment pas. Si on pense à l'expérience oralité mixte, holomat, c'est très visuel, donc c'est difficile. Par contre, dès qu'on a pu mettre soit du relief, du braille, du sonore, ça a permis de rendre les manips plutôt accessible aux personnes déficientes visuelles, et l'aspect aussi pour les personnes sourdes ou malentendantes, et en particulier les personnes sourdes. Enfin, on a aussi échangé avec des médiateurs ou professeurs aussi d'ailleurs, qui sont eux-mêmes sourds, avec le souci que même si on met des sous-titres dans nos films, même s'il y a des écrits, des cartels, pour les personnes sourdes, c'est une difficulté, c'est-à-dire que c'est une sorte de langue étrangère pour elles. Donc ça nous a paru vraiment important de pouvoir mettre de la langue des signes, et on l'a fait. Voilà.
Cette accessibilité, elle touche aussi, donc on en a parlé, hein, le public, et tout est fait pour que ce soit compréhensible par tout le monde, et notamment les enfants qui ont une belle place, je pense, dans la programmation, avec des ateliers pour les scolaires, des ateliers pratiques, voilà, pour des groupes de 7 à 11 ans ou de 12 à 16 ans tous les samedis pour appréhender les maths par la pratique. Il y a aussi des rencontres, alors là je pense que c'est adressé à tout le monde, des nocturnes, des rencontres avec des scientifiques, des conférences carte blanche, une fois par trimestre. Est-ce que c'est important de pouvoir ouvrir, au-delà de l'exposition, de pouvoir ouvrir un moment de parole des scientifiques directement avec le public?
Oui, ça fait partie de vraiment l'esprit du projet, je dirais, depuis le départ, même avant que j'arrive, et même avant que Cédric Villani arrive, en fait. C'est-à-dire que l'Institut a été quelque part refondé dans les années 80-90, et ce qui avait emporté le morceau auprès du ministère, c'était l'idée de faire un lieu de rencontre entre sciences et société. Donc finalement, on a matérialisé ce projet dans ce musée, et dans la programmation de ce musée.
Et alors, je reviens du coup sur les jeunes. Pourquoi aussi s'adresser aux jeunes, aux scolaires? Pourquoi eux?
Parce qu'ils sont notre avenir, on va dire. C'est un peu bateau, mais c'est vraiment très important au vu des besoins, même de la société, de toutes les technologies, des débouchés aussi pour les jeunes, dans le numérique et autres. Attirer le plus de jeunes possible dans les mathématiques au sens large, c'est-à-dire tout ce qui va avec l'informatique, les sciences connexes. C'est vraiment important. On le constate quand même dans nos cursus d'enseignement supérieur, on n'en a pas assez. Donc on veut contribuer à ça, faire connaître mieux les maths et les faire aimer aussi par les jeunes et leur, les inciter à suivre des études dans ces domaines-là.
C'est vrai qu'on a tendance à dire que les Français, enfin les enfants français, sont pas très forts en maths, ou alors qu'il y en a, il y a eu des traumatismes, qu'on a peur des maths. Bon, alors le pire étant de dire que c'est plus pour les garçons que pour les filles, ce qui est faux, je tiens à le dire, à le préciser, c'est important. Comment est-ce que ce musée est un moyen aussi de réconcilier un petit peu les maths, les enfants avec les maths, et de leur montrer que c'est amusant, qu'on peut vraiment faire des choses superbes avec?
Et oui, parce qu'effectivement, il y a les maths à l'école qui sont très importantes, c'est là où on fait les apprentissages. Le musée ne cherche pas à se substituer aux enseignants, enseignantes, mais ce n'est pas les mêmes choses que ce qu'on peut faire dans un musée. Moi, j'ai l'impression que quand je reçois des jeunes, enfin, je ne suis pas forcément directement en première ligne, on a toute une équipe, petite équipe, mais une équipe d'animation, mais quand même, de temps en temps aussi, je les vois directement, j'ai un peu l'impression d'être comme une grand-mère qui a que le bon côté des enfants, c'est-à-dire les enseignants et enseignantes, ils ont le travail difficile au quotidien, et nous, on leur montre quelque chose de différent, une expérience différente, qui va souvent pouvoir les marquer finalement beaucoup plus, parce que ça sort de l'ordinaire, ça marque beaucoup plus que les cours du quotidien. Voilà, donc c'est...
Mais c'est un peu un événement à côté, ouais. Donc ils sont curieux et c'est plus fun qu'à l'école, quoi.
Ouais.
C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le labo des savoirs.
Donc on va se retrouver à la maison Poincaré et puis on va avoir peut-être des petites anecdotes sur les coulisses de ce musée des mathématiques directement sur place. À tout de
avec
suite.
Plaisir.
En avant pour la visite, malgré la pluie, une queue de visiteurs attend devant le bâtiment Perrin. Nous sommes au début des vacances scolaires de la Toussaint, en début d'après-midi, et le musée est déjà complet pour la journée. À l'intérieur, c'est l'effervescence. Devant un plateau de manipulation, on retrouve Elliot, 12 ans, qui tente d'ordonner de gros cubes bleus dans un espace restreint.
Est-ce que tu peux me raconter ce que tu fais? Parce que je vois qu'il y a des cubes, mais j'ai pas trop compris le principe.
Bah là, il faut essayer de rentrer tous les cubes pour, enfin, faut essayer de les rentrer dans le carré, et c'est assez dur.
Et t'y arrives ou pas trop?
Là, non, pas trop.
En tout cas, t'as du public, hein. Il y a beaucoup de gens qui te regardent.
Bah oui, on va essayer aussi, mais c'est complexe. Mais au moins, c'est concret.
Derrière lui, Claire et sa fille regardent avec attention en attendant leur tour.
Comment vous êtes dit, musée des mathématiques, ouais, ça va être fun? Parce que faut y aller quand même dans un musée des maths.
Parce que moi-même, j'ai fait des mathématiques et le problème, c'était que je ne savais pas quels étaient les champs d'application des mathématiques. Donc, je me suis dit, pour ma fille, autant savoir à quoi ça sert. Ça sert, voilà. Et c'est vrai que c'est très concret, hein, de comprendre l'environnement dans lequel on vit, l'environnement naturel. Voilà, je me suis dit que c'était important d'avoir des clés. Et puis, c'est vrai que les champs d'application sont très différents, hein, entre la fabrication d'une balle de football et comprendre un mouvement aléatoire, un mouvement chaotique. Je ne savais même pas que ça existait. Et la modélisation est très convaincante. Donc, c'est très important.
Dans l'espace modélisé, on rencontre Arnaud, 27 ans, et Elisa, 17 ans. Ils tournent ensemble autour d'une sorte de colonne de boules colorées qui semble flotter au-dessus d'un graphique gravé sur une plaque en bois.
C'est un plan où il y a des boules qui représentent des gens. Et selon où ils sont dans le plan, et ben ça donne leur âge, leur nombre d'amis et la taille d'écran sur lequel ils jouent à deux jeux, un jeu de combat et un jeu de construction.
Ah oui, donc c'est comme si c'était un graphique en 3D, il y a des boules qui flottent un peu devant nous, c'est ça?
C'est l'idée, oui.
Et alors là, vous êtes dans l'espace modélisé du musée des maths. Jusque-là, comment vous trouvez ce musée?
Non, c'est vraiment intéressant, justement, ben, pour l'instant, juste ce qu'on voit de... Une autre approche des mathématiques et une autre vision de choses très... ce qu'on voit en cours, et c'est assez différent.
Est-ce que vous êtes dans les mathématiques en général ou pas du tout?
Pas du tout, hormis avec ma classe, mais ça s'arrête là, ça s'arrête au niveau CE2.
Moi oui, j'en fais en maths experte au lycée. Mais donc pour l'instant c'est pas très élevé comme niveau, mais ça m'intéresse quoi.
Et est-ce que c'est la... enfin, c'est peu courant de voir des boules qui flottent au milieu d'une pièce sur un graphique en 3D? Est-ce que cette représentation, ça vous fait comprendre des trucs que vous n'auriez pas compris sinon?
Je sais pas, ça me fait comprendre des choses, mais en tout cas, c'est parlant et je me dis qu'à plus tard à l'usage, ça amène des représentations qui pourront être réutilisées dans ma propre compréhension ou pour expliquer des choses aux autres, notamment mes élèves.
Plus loin, Maxime, 11 ans, agite un chien en plastique au-dessus d'un écran où une multitude de boules colorées se déplacent.
Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire ?
Pousser des moutons dans une bergerie.
Ah oui, il y a plein de petits points, c'est des moutons. Ah oui, donc toi, t'as un... T'as quoi ? T'as un chien que t'essaies ?
Un chien qui est en train de... C'est comme un chien de berger qui pousse les moutons à l'intérieur de sa bergerie.
Donc c'est de la visualisation de moutons numériques. Et toi, avec le chien que t'as dans la main, t'arrives à modifier leur comportement un peu.
Oui, je peux leur modifier le comportement au début. Savoir s'ils sont effrayés ou s'ils sont calmes.
T'as fait d'autres activités dans le musée ou c'est la première fois que tu fais un atelier ?
Non, là j'en ai fait quelques-unes. C'est à peu près ma troisième activité.
Pour la suite de la visite, on retrouve Sylvie Benzoni-Gavage face à des colliers colorés accrochés au mur.
Là, on est dans la salle partagée. C'est une salle qui est près de l'entrée et on est face à un mur où il y a marqué « collier de mathématiques » et effectivement, devant nous, il y a des colliers de perles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors oui, donc c'est des colliers qui sont figés là, on ne peut pas les toucher, mais il faut imaginer comme si c'était un collier de perles qu'on peut ouvrir, faire des nœuds comme on veut, comme si on faisait des nœuds de lacets. Ensuite, on le referme et ça fait un nœud mathématique. Et on peut développer toute une théorie de ces nœuds. C'est une théorie assez relativement récente qui a commencé il y a un siècle, grosso modo, qui vise à mieux comprendre quelque chose que les humains connaissent depuis toujours. C'est des savoirs ancestraux de faire des nœuds avec des ficelles. Voilà. Mais on peut... développer vraiment beaucoup de choses autour des nœuds et il se trouve que c'est parti d'une erreur scientifique à la base. C'était Kelvin, celui des degrés Kelvin, qui avait imaginé que la matière était faite avec des nœuds, d'éther. À l'époque, on parlait d'éther. Et bon, c'était une idée créative mais fausse. Et c'est ça qui a entraîné le développement de la théorie des nœuds en mathématiques, qui est en fait un sous-domaine de ce qui s'appelle la topologie. Et il se trouve que ces nœuds sous forme de collier, on a choisi ça aussi comme clin d'œil à un artiste qui s'appelle Jean-Michel Autoniel, qui en a réalisé des gigantesques en perles, en verre de Murano ou en acier, et qui sont très, évidemment très belles. Donc on n'a pas pu avoir ses propres œuvres, on les a juste en images, mais on a réalisé, le prestataire a réalisé ces colliers, donc qu'on peut observer. Là, on les touche pas, mais on peut aussi mettre à disposition des visiteurs et visiteuses. Des colliers qu'on va vraiment pouvoir manipuler et essayer de repérer quels sont les nœuds qui sont identiques et ceux qui ne le sont pas.
Parce que là, il y a des colliers qui sont tout blancs et des colliers qui ont été colorés avec, par exemple, du rouge, du jaune et du bleu. Et en fonction de si le collier de perles passe en dessous ou au-dessus, ça change de couleur, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Il y a une règle. Et effectivement, les quatre nœuds qui apparaissent ici, coloriés en rouge, bleu, jaune, c'est pour mettre en évidence l'une des toutes premières propriétés de certains nœuds, d'être ce qu'on appelle tricoloriable. Et c'est ce qui permet... C'est une façon de, par exemple, pouvoir différencier le nœud qui est tout en haut, le nœud de trèfle, avec le collier pas noué du tout, qu'on appelle aussi un non-nœud, démontrer mathématiquement que ces deux nœuds sont différents. Même si on s'imagine que si on manipule notre collier de perles noué en nœud de trèfle, on ne va pas arriver à le dénouer sans l'ouvrir, et bien pour pouvoir le démonter mathématiquement, il faut quelque chose. Et le fait qu'on puisse colorier avec ces trois couleurs le nœud de trèfle et pas le collier non noué, c'est une façon de prouver que ce n'est pas les mêmes nœuds. Enfin, que le nœud de trèfle est un nœud et qu'un vrai nœud. Voilà.
Et c'est génial parce que du coup là on voit ces fameux colliers de perles colorés avec en dessous il y a la formule et il y a les noms, mais en fait en visuellement on comprend tout de suite qu'effectivement le non nœud, le collier classique qui n'est pas noué, n'a rien à voir avec le nœud de trèfle, qui n'a rien à voir avec le nœud d'huit ou avec le premier nœud de lisse à joues. Alors j'essaie de lire en même temps, je découvre les noms, c'est assez drôle.
Oui, alors ils n'ont pas tous de nom parce qu'évidemment il y en a une infinité de ces nœuds. On en a représenté quelques-uns. Ils sont classés en fonction du nombre de croisements quand on les dessine un peu à plat. Donc on a dessiné les principaux nœuds jusqu'à 7 croisements et puis deux autres qui en ont 11 parce qu'il y a des petites surprises sur ces nœuds. Si on regarde un autre, ce qu'on appelle un invariant, encore une fois, comme la tricolorabilité, c'est un invariant. Si on manipule le nœud, elle reste vraie ou fausse. Un autre invariant, c'est ce polynôme un peu compliqué parfois qu'on a écrit aussi en dessous des nœuds. Et curieusement, les deux nœuds qu'on a représentés qui ont 11 croisements, leur polynôme, en l'occurrence polynôme de Conway, est 1, comme si c'était le non-nœud. Alors qu'on se doute quand même, quand on les voit, que ce n'est pas le non-nœud. Mais ce n'est pas ce polynôme qui permet de le démontrer. Il faudra aller chercher autre chose.
Ça donne envie de lire, enfin de l'avoir sous les yeux. Nous, on le voit, donc c'est génial. Vous, il faut que vous veniez au musée pour le voir. Et alors, on est dans une pièce où il y a aussi d'autres... Alors, c'est pas des colliers de perles, mais c'est des espèces de figures, alors en plâtre, en bois, en fil, qui font partie d'une collection plutôt ancienne, pour représenter les mathématiques, c'est ça ?
Alors, c'était un des prétextes, en fait, au départ, pour ce musée, c'est que l'Institut Henri Poincaré avait une collection assez nombreuse, 600 objets mathématiques, qui sont centenaires pour la plupart, qui représentent plutôt des surfaces. Autant les nœuds mathématiques, c'est des choses comme des fils, donc dimension 1. Les surfaces, c'est plutôt dimension 2. Et y en a beaucoup, dont certains qui sont très connus, puisqu'ils ont été photographiés puis peints par Man Ray. Donc on a présenté à peu près l'intégralité de ceux qui avaient été photographiés par Man Ray, plus d'autres objets qui sont certains plus récents et qui ont inspiré un certain nombre d'artistes. Donc pas que Man Ray. Y a des sculpteurs, donc on a... présente quelques images de sculptures inspirées par ces objets qui étaient plutôt à la fois à vocation pédagogique au 19e siècle et puis à des fins de classification. Voilà, il y avait certains types de surfaces qu'on représentait, qu'on distinguait les unes des autres et elles étaient fabriquées comme ça pour pouvoir les observer et les manipuler.
Et là, elles sont sous des vitrines, mises en valeur sur un superbe fond bleu. Et il n'y en a pas 600, hein. Vous avez dû sélectionner, j'imagine, celles que vous vouliez présenter au public.
Et oui, on a dû faire un choix, ce qui était toujours difficile, parce qu'effectivement, dans cette magnifique pièce, on n'a pas la place de présenter 600 objets. On a aussi quelques objets récents. On a, par exemple, un objet qui mérite d'être manipulé. On en a une version qu'on peut sortir de la vitrine, le Gombots, qui est un objet... avec une seule position d'équilibre. Donc on le pose n'importe comment, il revient toujours à une seule position. Donc il est là-bas en inox. Et on a aussi acquis récemment un ellipsoïde laqué qui est fabriqué par un artiste qui s'appelle Pierre Gallet, dont une autre œuvre est présentée dans une autre salle également.
C'est assez joli à voir. Ça fait un peu de l'art en fait, c'est de l'art mathématique.
Et oui, c'est un peu l'idée de rapprocher art et mathématiques au travers de cette salle.
La visite continue avec Sylvie Benzoni-Gavage depuis la maison Poincaré, juste après une petite pause musicale.
Por más que lo intento, me agarre, no siento lo que yo sentí agarrado a ti. Si él no me hace daño, ¿por qué no me moja? ¿Por qué no me inspira lo que tú sí? Yo sé que estás triste, que no eres el mismo. Te quedas dentro de la soledad. Que llora escondida y no exterioriza. Y solo te sientes bien con mamá. Hey, ya, llama a la policía. Yo voy a cruzar el estrecho llenito de mercancía. Que cuando llegue a Tánger voy a quedarme allá a la orilla. Y hasta que no aparezca no me vuelva a Andalucía. Hey, ya, llama a la policía. Y cuando llega tan voy a quedarme yo la orilla. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza. Sé que llegará para que no me llores así. Baby, dame la esperanza, pero voy a llegar. No nos va a llegar. Tú dormí y le decías así. Nunca te enamores si no sientes nada por ti. Fasola, estoy destrozada. Lo que vi en sus ojos nunca se me va a olvidar. Tú dormí y le decías así. Nunca te enamores si no sientes nada por ti. Fasola, estoy destrozada. Lo que pienso en sus ojos nunca se me va a olvidar. Llama a la policía. Que voy a cruzar el estrecho llenita de mercancía. Que cuando llegue a Tánger voy a quedarme allá en la orilla. Para que no me llores así, no pierdas la esperanza. Sé que llegará. Sé que llegará.
C'était Tanger de Judeline. Nous sommes de retour au tout nouveau musée des mathématiques de Paris en compagnie de Sylvie Benzeni-Gavache, directrice de la maison Poincaré, et nous continuons notre déambulation dans les différents espaces.
Alors là, on est dans une autre pièce, une pièce qui s'appelle Inventer. C'est un grand amphithéâtre qui, je pense, est d'époque, hein, j'imagine.
Oui, oui, date de 1926, le bâtiment construit par Jean Perrin.
Et donc, il y a une vidéo qui passe plusieurs histoires racontées par des scientifiques et illustrées par des images. Là où, justement, il y a une dame qui signe ce qui est raconté et il y a un sous-titre en anglais. Et ces scientifiques racontent un moment de découverte, c'est ça ?
Oui, on a intitulé cette série « Sensations d'invention ». Donc, il y a 8 portraits, 4 mathématiciens, 4 mathématiciennes, filmés dans des environnements variés et surtout pas que leur bureau, parce qu'on fait des maths un peu partout, en fait, et qui racontent un petit peu leur façon de travailler, leur façon de découvrir des choses, leur façon de sécher aussi, parce qu'on passe du temps à ne rien comprendre et à se tromper aussi. C'est très important de passer cette idée que l'erreur est très importante en maths. On progresse en faisant des erreurs.
Et j'avais regardé une de ces vidéos où il y a un chercheur qui parle d'un petit schéma sur un ticket de métro. Il y a une autre chercheuse qui est d'ailleurs, je crois, au jardin du Luxembourg, je suis pas sûre, et qui raconte le moment où elle a enfin compris après avoir pas compris pendant des mois et des mois et des années, et là le moment de révélation. Et c'est génial à écouter parce que on oublie qu'on parle de maths déjà et on est avec eux, quoi. Il y a du suspense.
Du suspense et puis pas mal d'émotions aussi, parce que je crois que les gens ne s'imaginent pas trop qu'on ressent des émotions en faisant des maths. Et moi, quand je vois ses collègues, ça me donne un peu des frissons. Il y a une collègue aussi qui raconte les différences entre maths et musique. On l'entend jouer du piano. Enfin, on les voit dans leur vie, quoi. C'est des maths vivantes.
C'est exactement ce que représente cette maison Poincaré. On va pas tout visiter parce que c'est de la triche, sinon vous allez jamais venir, chers auditeurs et auditrices. Et on va peut-être finir sur cette fameuse carte des mathématiques quand même, parce qu'elle est magnifique. On y va. On est devant la carte des mathématiques. Il y a foule. Il y a énormément de gens qui manipulent le fameux ballon, des cubes, et qui regardent cette carte très colorée. Alors, tant qu'on est devant, est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu ?
Alors, c'est une carte qui représente déjà plusieurs quartiers. Il y a un quartier des nombres, comme les gens s'attendent à trouver des nombres dans un musée des maths, mais il y en a 5 autres et qui essaient de nous repérer un petit peu dans ce qui sont les sujets des mathématiques. Et puis ces quartiers sont traversés par des lignes de métro, si on peut dire, représentées par des fils élastiques de couleurs. Donc il y en a, je dis plus de bêtises, 7 lignes. Et sur chacune des lignes, il y a beaucoup de stations, comme on aurait des stations sur un quart de métro, avec beaucoup d'intersections. C'est-à-dire, s'il fallait vraiment la construire avec des passages, des escaliers, il y aurait beaucoup d'escaliers pour franchir les stations qui se rencontrent. Et on a mis en plus quelques points remarquables, un peu comme on aurait la Tour Eiffel ou Beaubourg, je ne sais pas. On a mis quelques points remarquables qui sont des sujets d'études particuliers. Bon, c'était aussi une façon de représenter. On s'est posé beaucoup de questions sur la façon de représenter cette carte des mathématiques. Et le fait d'avoir des quartiers, des lignes, des points remarquables, ça permet d'avoir finalement plusieurs dimensions dans notre représentation.
Avec autour ces fameux objets du quotidien qui sont numérotés, comme ça on va pouvoir ensuite voir à quoi ils correspondent. Il y a une espèce de bouée, il y a une corde à nœuds, il y a un satellite, il y a un truc qui ressemble à une valise, une roue de vélo, une espèce de... comme un chou romanesco, qui j'imagine représente une fractale en 3D. Il y a une roue de casino, une carte bleue, un téléphone portable, un Rubik's Cube, une horloge. Bon, je crois que je les ai pas tous faits. Ces fameux moyens de se rattacher au quotidien.
Oui, c'est une façon de vraiment littéralement tirer des fils vers le quotidien, partir d'un objet que les gens connaissent en général et raconter des maths dessus. Donc soit les gens sont en autonomie, ils peuvent lire les cartels et il y a aussi 4 petits films pédagogiques sur 4 objets choisis parmi ces 14. Par exemple... un objet que j'aime bien, qui est assez visible sur les photos qu'on voit circuler, c'est la bouée multicolore, qui permet de parler un petit peu de topologie. Donc c'est un domaine inconnu du public en général, parce qu'on apprend ça quand on fait des études de maths, et qui en même temps est très visuel. C'est une bouée qui a la particularité d'être coloriée avec 7 couleurs, et sept couleurs qui sont mitoyennes les unes des autres, ce qui serait totalement impossible dans le plan, puisque dans le plan, il y a un théorème qui s'appelle le théorème des quatre couleurs. Si vous prenez une carte de géographie, vous pouvez la colorier toujours avec quatre couleurs, ça vous suffira. Et alors que sur une bouée, vous pouvez avoir besoin jusqu'à sept couleurs.
Une bouée qui est donc en trois dimensions, et donc c'est ça, c'est la topographie, c'est dans l'espace un peu.
Alors la topologie, pardon.
Le
domaine des maths qui s'occupe des objets sans se préoccuper des déformations, c'est-à-dire. Tout à l'heure, j'évoquais le cube sphérique. En fait, un cube et une sphère, du point de vue de la topologie, c'est la même chose. Parce qu'il faut imaginer qu'on peut la faire en pâte à modeler, on déforme ça sans déchirer, et ça fait, du point de vue de la topologie, le même objet.
C'est génial. C'est génial de voir cette bouée et de savoir tout ce qui se cache en dessous. Surtout qu'elle est très belle, cette bouée. Très, très bien colorée. C'est votre objet préféré dans le musée ou vous en avez d'autres ?
Alors, je ne sais pas si c'est mon objet préféré, mais j'avoue que je l'aime beaucoup. Elle rend très, très bien. Et j'aime aussi beaucoup le tableau avec les colliers mathématiques.
En tout cas, merci beaucoup, Sylvie Benzoni-Gavage, d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'avoir fait cette petite visite, parce que ça donne envie de venir. Et si vous avez un conseil à ceux qui ne connaissent pas, ce serait quoi ?
Ceux qui ne savent pas à quoi s'attendre, eh bien, justement, venez, parce que ça va sûrement être très différent de ce à quoi vous attendez.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à Sylvie Benzoni-Gavage, directrice de l'Institut Henri Poincaré, d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir fait visiter ce tout nouveau musée des mathématiques. Il est déjà victime de son succès, alors n'hésitez pas à réserver votre visite sur leur site internet. Merci également à Lénaïque Corderoc pour sa première chronique sur les filles en mathématiques. Et retenez que non, les garçons ne sont pas plus forts dans les sciences. En revanche, les clichés le sont bien. Une émission préparée et réalisée par Sophie Potvin que vous pouvez réécouter sur votre application de podcast. Retrouvez-nous sur labodessavoir.fr ou sur les réseaux sociaux. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
www.radio-g.fr deep down and sleep. Watch how two bits wild to the top. I got a ticket going one way. Hey, pretty. I stand about 5'5", my reach high up there. I see them, I say none. Watch them get up out my way. To you bitches, what? I talk in tongues, what? Let's go why our team will stay like all them witches, what? Do you follow, what? When I flip off, what? I do my thing, I do my way. Now can you dig it?